question. Mais il y a ceux qui diraient que ce sont les jeunes gens et leurs idées folles, bizarres, gauchistes, qui ont entraîné ce pays et ce monde dans la décadence, qui l'ont envoyé au diable, qui l'ont poussé au bord de la destruction, qui ont détruit notre culture orientée sur les valeurs et qui l'ont remplacé par une morale du « faites ce que vous voulez », du « faites tout ce qui fait du bien » qui menace de détruire notre mode de vie même. Réponse : les jeunes sont vraiment en train de détruire votre mode de vie. Les jeunes ont toujours fait cela. Votre tâche consiste à les encourager et non à les décourager. Ce ne sont pas vos jeunes qui sont en train de détruire les forêts tropicales. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui sont en train d'épuiser la couche d'ozone. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui exploitent les pauvres dans des usines du monde entier. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui vous imposent des taxes à l'infini pour ensuite utiliser l'argent pour faire la guerre et pour acheter des machines de guerre. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui ignorent les problèmes des faibles et des démunis et qui laissent des centaines de gens mourir de faim chaque jour sur une planète qui a plus que ce qu'il faut pour nourrir tout le monde. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui s'adonnent à la politique de la tromperie et de la manipulation. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos jeunes qui, réprimés sexuellement, affligés de honte et de gêne à propos de leur propre corps, transmettent cette honte et cette gêne à leurs enfants. Ils vous demandent d'arrêter. Ce ne sont pas vos enfants qui ont établi un système de valeurs qui dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure et un monde qui résout les problèmes par la violence. Ils vous demandent d'arrêter. Non, ils ne vous le demandent pas. Ils vous en supplient. Question. Mais ce sont les jeunes qui sont violents, les jeunes qui forment des gangs et qui se tuent mutuellement, les jeunes qui font un pied de nez à la loi et à l'ordre, à toute forme d'ordre, les jeunes qui nous rendent fous. Réponse : lorsque les cris et les supplications des jeunes afin de changer le monde ne sont pas entendus et jamais écoutés, lorsqu'ils voient que leur cause est perdue, que vous ferez les choses à votre manière, quoi qu'il arrive, les jeunes, qui ne sont pas stupides, vont adopter la solution de rechange. S'ils ne peuvent vous vaincre, ils vont passer dans votre camp. Vos jeunes se sont joints à votre camp dans vos comportements. S'ils sont violents, c'est parce que vous êtes violents. S'ils sont matérialistes, c'est parce que vous êtes matérialistes. S'ils agissent de façon stupide, c'est parce que vous agissez de façon stupide. S'ils utilisent le sexe de façon manipulatrice, irresponsable, honteuse, c'est parce qu'ils vous voient faire la même chose. La seule différence entre les jeunes et les plus vieux, c'est que les jeunes font ce qu'ils font ouvertement. Les plus vieux dissimulent leur comportement. Les plus vieux croient que les jeunes ne peuvent voir. Mais les jeunes voient tout. Rien ne leur est caché. Ils voient l'hypocrisie de leurs aînés. Ils tentent désespérément de la changer. Mais comme ils ont essayé et échoué, ils ne voient aucune autre possibilité que de l'imiter. En cela, ils ont tort. Mais on ne leur a jamais appris autre chose. On ne leur a pas permis d'analyser de façon critique ce que leurs aînés ont fait. On leur a seulement permis de le mémoriser. Ce que vous mémorisez, vous en faites un monument. Question. Comment alors devrions-nous éduquer nos jeunes? Réponse. Tout d'abord, traitez-les comme des âmes. Ce sont des âmes qui entrent dans un corps physique. Ce n'est pas une chose facile pour une âme. L'âme ne s'y habitue pas facilement. C'est très contraignant, très limitatif. Alors, l'enfant crie à cause de ses limites. Entendez ce cri, comprenez-le, et donnez à vos enfants, autant que vous le pouvez, le sentiment d'être illimité. Ensuite, présentez-leur avec douceur et bienveillance le monde que vous avez créé. Soyez plein de bienveillance, c'est-à-dire soyez prudent, par rapport à ce que vous mettez dans les unités de stockage de leur mémoire. Les enfants se rappellent tout ce qu'ils voient, tout ce dont ils ont fait l'expérience. Pourquoi donnez-vous la fessée à vos enfants aussitôt qu'ils sortent du ventre maternel? Vous imaginez-vous vraiment que c'est la seule façon de faire démarrer leur moteur? Pourquoi éloignez-vous vos bébés de leur mère quelques minutes après qu'ils aient été séparés de la seule forme de vie qu'ils ont connue dans toute leur existence présente? Est-ce qu'avant de les mesurer, de les peser, de les tâter et de les pousser, on ne peut pas attendre juste un moment que l'enfant nouveau-né et fait l'expérience de la sécurité et du confort de ce qui lui a donné la vie? Pourquoi permettez-vous que certaines des premières images auxquelles votre enfant est exposé soient des images de violence? Qui vous a dit que c'était bon pour vos enfants? Et pourquoi cachez-vous des images de l'amour? Pourquoi enseignez-vous à vos enfants à avoir honte et à être gênés de leur propre corps et de leur propre fonction en leur cachant votre propre corps et en leur disant de ne jamais se toucher d'une façon qui leur apporte du plaisir? Quel message leur envoyez-vous à propos du plaisir? Et quelles leçons leur donnez-vous à propos du corps? Pourquoi placez-vous vos enfants dans des écoles où l'on permet et encourage la compétition, où l'on récompense le fait d'être le meilleur, entre guillemets, et d'apprendre le plus, entre guillemets, où l'on accorde de la valeur à la performance, entre guillemets, et où le fait de progresser à son propre rythme est à peine toléré? Qu'est-ce que votre enfant en comprend? Pourquoi n'enseignez-vous pas à vos enfants le mouvement, la musique, la joie de l'art, le mystère des contes de fées, la merveille de la vie? Pourquoi ne suscitez-vous pas ce qui se trouve naturellement chez l'enfant, plutôt que de chercher à y mettre ce qui n'est pas naturel pour l'enfant? Et pourquoi ne laissez-vous pas vos jeunes apprendre la logique, la pensée critique, la résolution de problèmes et la création en utilisant des outils de leur propre intuition et leur connaissance intérieure la plus profonde, plutôt que les règles et les systèmes et conclusions mémorisées d'une société qui a déjà prouvé qu'elle était totalement incapable d'évoluer selon ces méthodes, mais qui continue de les utiliser? Finalement, enseignez des concepts, pas des sujets. Créez un nouveau programme et construisez-le autour de trois concepts essentiels. La conscience, l'honnêteté, la responsabilité. Enseignez ces concepts à vos enfants dès leur plus jeune âge. Faites-leur suivre le programme jusqu'au bout. Fondez tout votre modèle éducatif sur eux. Faites éclore toute instruction en eux, profondément. Question. Je ne comprends pas ce que cela implique. Réponse. Cela implique que tout ce que vous enseignez découle de ces concepts. Question. Peux-tu expliquer cela? Comment enseignerions-nous la lecture, l'écriture et le calcul? Réponse. Des premiers recueils à vos manuels les plus avancés, tous les contes, histoires et sujets tourneraient autour des concepts essentiels. C'est-à-dire que ce seraient des histoires de conscience, des histoires d'honnêteté, des histoires de responsabilité. Vos enfants recevraient une présentation des concepts, une injection des concepts, une immersion dans les concepts. De même, les tâches d'écriture tourneraient autour de ces concepts essentiels et d'autres qui y sont connexes à mesure que l'enfant développe sa capacité d'expression. Même l'arithmétique serait enseignée dans ce cadre de pensée. L'arithmétique et les mathématiques ne sont pas des abstractions, mais les outils les plus fondamentaux qui permettent de vivre la vie. L'enseignement du calcul serait mis dans le contexte de l'expérience de vie plus générale, de façon à attirer l'attention et à faire le point sur les concepts essentiels et leurs dérivés. Question. Quels sont ces dérivés? Réponse. Pour utiliser une expression répandue par vos journalistes, ce sont des sous-produits. On peut fonder tout le modèle éducatif sur ces sous-produits en remplaçant les sujets de votre programme actuel qui enseigne surtout des faits. Question. Par exemple, réponse, eh bien, faisons travailler notre imagination. Quels sont certains des concepts qui sont importants pour toi dans la vie? Question, je dirais l'honnêteté, comme tu l'as dit. Réponse, oui, continue, c'est un concept essentiel. Question, l'équité, c'est un concept important pour moi. Réponse, bien, y en a-t-il d'autres? Question, le fait de traiter les autres avec gentillesse, c'en est un. Je ne sais pas comment mettre ça dans un concept. Réponse. Continue. Laisse tes pensées se dérouler. Question. S'entendre avec les autres. Être tolérant. Ne pas blesser les autres. Voir les autres comme des égaux. Ce sont toutes des choses que j'espérerais pouvoir enseigner à mes enfants. Réponse. Bien. Excellent. Continue. Question. Croire en soi-même. Ça, c'est bon, ça. Attends. Il y en a une qui vient. C'est ça. Marcher dans la dignité. J'imagine que je l'appellerais marcher dans la dignité. Je ne sais pas comment mieux le conceptualiser non plus, mais ça a quelque chose à voir avec la façon dont on se porte dans la vie et la façon dont on respecte les autres et la voie que prennent les autres. Réponse. C'est bien. Tout cela est bien. Tu y arrives maintenant. Et il y a tant d'autres concepts semblables que les enfants doivent comprendre profondément s'ils veulent évoluer et devenir des êtres humains complets. Mais vous n'enseignez pas ces choses dans vos écoles. Ce sont les choses les plus importantes dans la vie, ces choses dont nous parlons à présent, mais vous ne les enseignez pas à l'école. Vous n'enseignez pas ce que veut dire être honnête. Vous n'enseignez pas ce que veut dire être responsable. Vous n'enseignez pas ce que veut dire être conscient des sentiments des autres et respectueux des orientations des autres. Tu dis qu'il appartient aux parents d'enseigner ces choses. Mais les parents ne peuvent transmettre que ce qu'on leur a appris. Les péchés du père sont transmis au fils. Alors, vous enseignez chez vous les mêmes choses que vos parents vous ont enseignées chez eux. Question. Alors, qu'y a-t-il de mal à cela ? Réponse. Comme je ne cesse de le répéter ici, as-tu observé le monde dernièrement ? Question. Tu continues de nous ramener à ça, tu continues de nous faire regarder ça, mais tout ça n'est pas notre faute. On ne peut nous blâmer pour l'état dans lequel se trouve le reste du monde. Réponse. Ce n'est pas une question de blâme, mais de choix. Et si vous n'êtes pas responsable des choix passés et actuels de l'humanité, qui l'est ? Question. Eh bien, nous ne pouvons nous rendre responsables de tout ça. Réponse. Je te dis ceci. À moins de vouloir prendre la responsabilité de tout cela, vous ne pourrez rien y changer. Vous ne pouvez continuer à dire que ce sont eux qui l'ont fait, et que ce sont eux qui le font, et que si seulement ils faisaient comme il faut. Rappelle-toi la meilleure réplique de Pogo, le personnage de bande dessinée de Walt Kelly, et ne l'oublie jamais. Je cite « Nous avons rencontré l'ennemi et c'est nous-mêmes ». Question. Nous répétons les mêmes erreurs depuis des centaines d'années, n'est-ce pas ? Réponse. Depuis des milliers d'années, mon fils. Vous commettez les mêmes erreurs depuis des milliers d'années. Les instincts les plus fondamentaux de l'humanité n'ont pas beaucoup évolué depuis l'âge des cavernes. Mais chaque tentative de changement encourt la dérision. Chaque mise au défi d'examiner vos valeurs, et peut-être même de les restructurer, est accueillie par la peur, puis la colère. Maintenant, je vous suggère une idée pour vraiment enseigner des concepts supérieurs dans les écoles. Et là, mon vieux, on s'aventure vraiment sur de la glace mince. Cependant, dans les sociétés les plus évoluées, c'est exactement ce qu'on fait. Question. Mais le problème, c'est que tout le monde ne s'entend pas sur ces concepts, sur leur signification. C'est pourquoi nous ne pouvons les enseigner dans nos écoles. Les parents deviennent furieux lorsqu'on essaie d'introduire ces valeurs dans le programme. Ils disent qu'on enseigne des valeurs et que l'école n'est pas l'endroit désigné pour une telle instruction. Question. Ils ont tort. Encore une fois, selon ce que tu me racontes de votre projet en tant que race, qui est de bâtir un monde meilleur, ils ont tort. Les écoles sont exactement l'endroit désigné pour une telle instruction. Précisément parce que les écoles sont détachées des préjugés des parents. Précisément parce que les écoles sont séparées des notions préconçues des parents. Vous avez vu ce qui a résulté sur la planète de la transmission de valeurs des parents aux enfants. Votre planète est dans un état désastreux. Vous ne comprenez pas les concepts les plus fondamentaux des sociétés civilisées. Vous ne savez pas comment résoudre les conflits sans violence. Vous ne savez pas comment vivre sans peur. Vous ne savez pas comment agir de façon désintéressée. Vous ne savez pas comment aimer sans condition. Ce sont des notions fondamentales, fondamentales, et vous n'avez même pas commencé à vous approcher d'une pleine compréhension de ces notions, encore moins à les appliquer, après des milliers et des milliers d'années. Question. Y a-t-il une façon de mettre fin à ce désastre ? Réponse. Oui, elle se trouve dans vos écoles. Elle se trouve dans l'éducation de vos jeunes. Votre espoir est dans la prochaine génération et la suivante. Mais vous devez cesser de les plonger dans les voies du passé. Ces voies n'ont pas fonctionné. Elles ne vous ont pas amené là où vous dites vouloir aller. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez arriver exactement là où vous vous dirigez. Alors, arrêtez-vous. Faites un demi-tour. Asseyez-vous ensemble et rassemblez vos pensées. Créez la version la plus grandiose de la vision la plus grande que vous ayez jamais eue de vous-même en tant que race humaine. Puis, prenez les valeurs et les concepts qui sous-tendent une telle vision et enseignez-les dans vos écoles. Pourquoi pas des cours comme, allez, petit a, comprendre le pouvoir, petit b, résolution paisible des conflits, petit c, élément de relation amoureuse, petit d, personne et création de soi, petit e, le corps, l'esprit et l'âme, leur fonctionnement, petit f, développer la créativité. Petit g, célébrer l'être, accorder une valeur aux autres. Petit h, l'expression sexuelle joyeuse. Petit i, l'équité. Petit j, la tolérance. Petit k, diversité et similitude. Petit l, économie fondée sur l'éthique. Petit M, conscience créative et pouvoir de l'esprit. Petit N, conscience et éveil. Petit O, honnêteté et responsabilité. Petit P, visibilité et transparence. Petit Q, science et spiritualité. Question, ça s'enseigne déjà en grande partie, nous appelons ça les sciences sociales. Réponse, je ne parle pas de 2 jours par semaine, je parle de cours entiers sur chacune de ces choses. Je parle d'une révision complète des programmes de vos écoles. Je parle d'un programme fondé sur les valeurs. Ce que vous enseignez maintenant, c'est un programme largement fondé sur les faits. Je parle de concentrer l'attention de vos enfants sur la compréhension des concepts essentiels et des structures théoriques autour desquelles leur système de valeurs est construit, autant que vous le faites maintenant sur des dates, des faits et des statistiques. Dans les sociétés hautement évoluées de votre galaxie et de votre univers, des sociétés dont nous parlerons de façon beaucoup plus précise dans le tome 3, on enseigne les concepts de vie aux enfants en très bas âge. Ce que vous appelez les faits, auxquels ces sociétés accordent beaucoup moins d'importance, s'enseignent à un âge beaucoup plus avancé. Sur votre planète, vous avez créé une société dans laquelle ce petit a appris à lire avant de sortir de la maternelle, mais n'a pas encore appris qu'il lui faut cesser de mordre son frère. Et cette petite a appris par cœur, de plus en plus tôt, ses tables de multiplication, mais n'a pas appris qu'il n'y a rien de honteux ou de gênant à son corps. À présent, vos écoles servent surtout à fournir des réponses. Il serait beaucoup plus avantageux que leur fonction première soit de poser des questions. Que veut dire être honnête, ou responsable, ou équitable? Quelles en sont les implications? D'ailleurs, que veut dire le fait que 2 et 2 font 4? Quelles en sont les implications? Les sociétés hautement évoluées encouragent les enfants à découvrir et à créer eux-mêmes ces réponses. Question. Mais cela mènerait au chaos? Réponse. Par opposition aux conditions non chaotiques dans lesquelles vous vivez à présent? Question. D'accord. Alors, cela mènerait à un plus grand chaos? Réponse. Je ne propose pas que vos écoles cessent complètement de fournir à vos enfants des choses que vous avez apprises ou vos décisions à propos de ces choses. Tout au contraire. Les écoles servent leurs étudiants lorsqu'elles présentent aux jeunes ce que les aînés ont appris et découvert, décidé et choisi dans le passé. Les étudiants peuvent alors observer comment tout cela a fonctionné. Dans vos écoles, cependant, vous présentez cette information à l'étudiant en lui disant « voici ce qui est vrai », tandis que l'information ne devrait être présentée que comme de l'information, sans plus. L'information du passé ne doit pas servir de base à la vérité présente. L'information d'une époque ou d'une expérience antérieure doit toujours et uniquement servir de base à de nouvelles questions. Toujours, le trésor doit être dans la question et non dans la réponse. Et toujours, les questions sont les mêmes. Concernant ces données passées que nous avons montrées, êtes-vous d'accord ou en désaccord? Qu'en pensez-vous? C'est toujours la question clé. C'est toujours le point de mire. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? À présent, il est évident que les enfants vont apporter à cette question les valeurs de leurs parents. Les parents vont continuer d'avoir un rôle fort, de toute évidence le premier rôle, dans la création du système de valeurs de l'enfant. L'intention et le but de l'école seraient d'encourager les enfants, du plus bas âge jusqu'à la fin de l'instruction formelle, à explorer ces valeurs et à apprendre comment les utiliser, les appliquer, les rendre fonctionnelles et même à les remettre en question. Car les parents qui ne veulent pas que les enfants remettent leurs valeurs en question n'aiment pas leurs enfants, mais s'aiment eux-mêmes à travers leurs enfants. Question. Je souhaite tellement qu'il y ait des écoles semblables à celles que tu décris. Réponse. Il y en a qui ont tendance à s'approcher de ce modèle. Question. Il y en a? Réponse. Oui. Lis les écrits de cet homme appelé Rudolf Steiner. Explore les méthodes de l'école Waldorf qu'il a développées. Question. Alors bien sûr, je connais ces écoles. Est-ce une publicité? Réponse. C'est une observation. Question. Parce que tu savais que je connaissais les écoles Waldorf. Tu savais cela? Réponse. Bien sûr que je le savais. Tout dans ta vie t'a servi, t'a amené à cet instant. Je n'ai pas commencé à te parler au début de ce livre. Je te parle depuis des années, à travers toutes tes associations et tes expériences. Question. Tu dis que l'école Waldorf est la meilleure? Réponse. Non. Je dis que c'est un modèle qui fonctionne. Compte tenu de ce que vous dites vouloir atteindre en tant que race humaine, compte tenu de ce que vous dites vouloir faire, compte tenu de ce que vous dites vouloir être. Je dis que c'est un exemple, et je pourrais en citer plusieurs, bien qu'ils soient rares sur votre planète et dans votre société, de la façon dont l'éducation peut s'accomplir en se concentrant davantage sur la sagesse plutôt que sur la simple connaissance. Question. Eh bien, c'est un modèle que j'approuve beaucoup. Il y a bien des différences entre une école Waldorf et d'autres écoles. Permets-moi de te donner un exemple. C'est un exemple simple, mais il illustre l'argument de façon spectaculaire. À l'école Waldorf, l'enseignant accompagne les élèves à tous les niveaux de l'expérience d'apprentissage primaire et élémentaire. Pendant toutes ces années, l'enfant a le même professeur, plutôt que de passer d'une personne à une autre. Peux-tu imaginer le lien qui se forme ici? Peux-tu en voir la valeur? Le professeur en arrive à connaître l'enfant comme si c'était le sien. L'enfant acquiert un niveau de confiance et d'amour avec le professeur qui ouvre des portes que bien des écoles d'orientation traditionnelles n'ont jamais osé ouvrir. À la fin du cycle scolaire, le professeur revient la première année, il recommence avec un autre groupe d'enfants et les accompagne pendant des années, tout au long du programme. Dans une école Waldorf, un professeur dévoué peut finir par ne travailler qu'avec 4 ou 5 groupes d'enfants au cours de toute sa carrière. Mais ce qu'il ou elle a enseigné pour ses enfants dépasse tout ce qui est possible dans le contexte d'une école traditionnelle. Ce modèle éducatif reconnaît et annonce que la relation humaine, le lien affectif et l'amour partagé dans un tel paradigme ont autant d'importance que bien des faits que le professeur peut transmettre à l'enfant. C'est comme une école au foyer, à l'extérieur de la maison. Réponse : oui, c'est un bon modèle. Question : y a-t-il d'autres bons modèles ? Réponse : oui. Vous êtes en train de faire du progrès en éducation, sur votre planète, mais c'est très lent. Même la tentative d'instaurer dans les écoles publiques un programme orienté sur les buts et concentré sur le développement des habiletés a rencontré une énorme résistance. Les gens le trouvent menaçant ou inefficace. Ils veulent que les enfants apprennent des faits. Il y a des progrès, mais il reste beaucoup de travail à faire. Et ce n'est qu'un domaine de l'expérience humaine qui aurait besoin d'ajustements, compte tenu de ce que vous dites vouloir faire en tant qu'être humain. Question : oui, j'imagine que l'arène politique aurait besoin de changements aussi. Réponse : certainement.